au bout de la corde. Elle se tenait presque nue au milieu du bus, entre les mamas arabes avec leurs gros sacs de course, les dames à poussettes, les gamins au crâne rasé pour se donner l'air dur, et les inévitables jeunes à casquette. Ligne R7, de gare d'Argenson à mairie de Villeneuve, en pleine heure de pointe. Yves la détailla pendant quelques instants, stupéfait. Longue, blonde, le visage agréable sans être beau, le regard perdu dans le vide, comme tout voyageur du soir en banlieue. Elle portait des chaussures compensées blanches, un pantalon taille basse, très bas sur les hanches, et un soutien-gorge de dentelle à peine masqué par un minuscule gilet de velours noir. C'était la longue courbe de son corps, la ligne qui descendait des seins, se resserrait à la taille et suivait l'ovale allongé des hanches et des cuisses qui avait attiré son regard. Il avait cru un instant qu'elle portait une sorte de chemisier très transparent, mais le soleil couchant jouait bien sur la peau claire et nue de son ventre. Elle leva vers lui des yeux tristes et un peu trop maquillés. Il rougit, baissa la tête vers son document technique, la gardant dans un coin de son champ de vision. Et personne ne disait rien. Aucun imbécile ne la charriait. Qu'y avait-il à dire, d'ailleurs ? « Bonjour, mademoiselle, vous êtes indécente. » C'était le printemps, non ? Les gamines de 17 ans se promenaient en pantalon et petits hauts moulants et laissaient contempler leurs nombrils et leurs chutes de reins, et personne ne disait rien. Mais elle, longue, blonde, un peu vulgaire, presque nue, la peau de ses seins jouant avec la dentelle des bonnets, la ligne de son cou, les creux légers des clavicules, le nombril au centre de cette plaine ovale que ne voilait aucune barrière de tissu. Une fille de magazine, plutôt belle, excitante et vulgaire, descendue parmi nous. Il feignit de regarder par la fenêtre pour la voir de nouveau. Le bus se traînait avec douceur dans la circulation. Le conducteur devait être de bonne humeur. La fille s'était assise, indifférente à son entourage, et réciproquement. Ses lèvres étaient maquillées d'un rose soutenu. Vulgaire, oui. Quelle idée de faire attention à une fille pareille à une telle apparition. Il valait mieux se concentrer sur l'entretien chez Premier Solution. Avec son stress et toutes ses distractions, il risquait de se planter. Ce fut le cas. Il fut pitoyable lors des questions techniques, se découvrant des incompétences qu'il ignorait. La cravate de soie à motif, cadeau de ses beaux-parents, lui paraissait ridicule. Il aurait voulu l'arracher de son cou, d'autant que Cédric Mathieu, le responsable du département, n'en portait pas. Vous comprenez que le poste exige une grande disponibilité et une bonne capacité d'adaptation aux exigences clients. Est-ce un domaine où vous vous sentez à l'aise ? Quels sont vos points forts ? Il pensa à la fille et répondit sans faire attention. Était-il le seul à l'avoir remarqué ? Isabelle était rentrée depuis longtemps. Il était plus de 9 heures quand il arriva à l'appartement. Elle paraissait préoccupée, comme souvent ces dernières semaines. Mais elle écouta d'un air intéressé le récit de l'entretien, l'encourageant gentiment à rappeler Cédric Mathieu pour un autre poste si sa candidature en tant que consultant n'était pas retenue. Yves était plutôt réticent. Il lui dit qu'il n'aimait pas ce genre de connard. Il finit son apéritif en regardant sa femme. Elle se tenait près de la fenêtre, prenant une de ces poses aristocratiques et blasées de Lady Victorienne qu'il avait découverte quand il s'était connu. Il chercha à deviner ses seins derrière le pull de cachemire, ses hanches fines sous la jupe qui descendait aux chevilles. Ses vêtements s'accordaient à sa silhouette maigre et délicate, mais il avait envie de les lui enlever pour lui faire l'amour. Il se leva sans la quitter des yeux et ferma le rideau. L'idée parut la réjouir. Il revit la fille le lendemain matin à la gare d'Argenson. Elle portait un manteau long cintré dans un tissu assez chic. Elle attendait le bus. Dans l'infime entrebâillement du manteau, il distingua la dentelle blanche du soutien-gorge. Était-elle une prostituée ? Il s'en voulut de penser une chose aussi désobligeante d'une femme. Une belle russe ou bien une ukrainienne importée par on ne sait quelle mafia. Le genre de fille des beaux quartiers et pas des banlieues pourries. Un conducteur de bus vint lui parler. Elle leva les yeux vers lui sans lui répondre, sans sourire. Les Russes ne sourient jamais, c'est connu. Un gros type, avec une veste noire un peu trop serrée, la tête très ronde, à demi maghrébin. Dégage, gros lourd, fous-lui la paix. Il souriait, draguait, sûr de son charme beauf. Blasée par la dureté du monde, elle se contentait de le regarder et ne répondait rien. Elle laissa là le gros type et monta dans le bus qui venait d'arriver. Ligne R7, celle qui mène chez Premier Solution. 20 minutes de trajet depuis la gare. Yves songea à la suggestion d'Isabelle et décida de rappeler Cédric Mathieu. Il entra chez Premier début mai, pour un poste technique plutôt mal payé par rapport à ce à quoi il pouvait prétendre. Il partait tôt et rentrait tard, ce qu'Isabelle lui reprocha avec colère un soir de fatigue. Je croyais qu'il devait déménager sur Paris. Tu passes 3 heures dans les transports chaque jour, là. Pourquoi tu ne pars pas tant que tu es en période d'essai? La plupart de ses nouveaux collègues étaient sortis de chez McGregor Consulting, des frimeurs de machines à café. Il s'était acheté quelques cravates pour ne pas trop déparer, mais n'en aimait aucune. Il les enlevait dès qu'il montait dans le bus pour pouvoir enfin respirer. Elle réapparut le 7e jour, un vendredi soir. Le même manteau entrouvert, le pantalon si bas qu'il distinguait le sillon de laine. Elle se tenait à la barre centrale, le regard absent, comme toujours. Le bus plongea dans l'ombre des tours de la cité des Mirettes. Une bande de gamins monta dans le bus, à l'arrêt voisin du supermarché. Un groupe bruyant, casquette vissée au crâne, clé suspendue autour du cou, qui grimpa en horde par la porte de derrière, ne laissant pas au mémé le temps de descendre. Ils déferlèrent autour d'elle comme la marée, se moquant d'un jeune homme portant un chapeau, criant des obscénités à une musulmane bien sage cachée sous son voile. Yves replongea dans sa lecture pour ne pas croiser leurs regards et devenir la cible des Lazzi. Quand il osa de nouveau lever les yeux, elle se tenait au milieu d'eux, silencieuse et détachée, à peine gênée par les accélérations rageuses du chauffeur de bus agacé par la horde qui s'était emparée de son véhicule. Il passait rarement une semaine sans qu'il l'aperçût. Parfois à l'aller, le plus souvent au retour, le soir, vers 20 heures. Il montait chaque soir dans le bus, pris d'une impatience sourde qui lui faisait trembler les mains, les battements de son sang s'accélérant quand il l'apercevait, debout à l'arrière ou assise dans la rotonde 6 places. Parfois, à la gare, le gros con de chauffeur de bus venait discuter avec elle. Elle ne l'envoyait jamais balader. Il s'installa une fois juste à côté d'elle et observa pendant tout le trajet son reflet dans la vitre. Elle avait les ongles coupés très courts, les yeux maquillés un peu trop sombres. Il chercha à deviner des racines noires dans ses cheveux, se demandant avec un intérêt malsain si elle était vraiment blonde. Durant les réunions interminables, durant les longs repas de famille, il pensait à elle. Il se la figurait avec précision, il dessinait sur les blocs-notes ou sur les nappes, les longues courbes de sa silhouette. Il pensait à elle quand Isabelle tentait d'une voix terne et lasse de l'impliquer dans ses soucis infinis. Un soir, il trouva que sa jeune épouse ressemblait à une sauterelle. L'odeur de sa peau devenait agaçante. Elle demanda « À quoi tu penses ?»« À toi. » Son regard méfiant montra qu'elle ne le croyait pas. Un interminable soir d'été, il dut rester chez Premier jusqu'à 22 heures pour réinstaller un serveur. Il se laissa tomber dans le bus, les yeux fatigués, se demandant s'il pourrait trouver une terrasse à Paris où s'installer et prendre une bière fraîche. Sa gorge s'assécha. Elle se tenait au milieu de la rotonde. Il changea de place, s'asseyant dos à la marche pour la voir dans son champ de vision. Il n'avait pas dîné. Quelque chose tremblait très fort dans sa poitrine. Une femme fatiguée descendit un peu avant la mairie. Maintenant, ils étaient seuls. Yves ne bougea pas. Elle ne pouvait pas ne pas se rendre compte qu'il la dévorait du regard. Elle restait indifférente. Ce soir, tout allait changer. Il monterait dans le train avec elle. Il la suivrait jusqu'à Paris. Ils iraient boire un verre ensemble. Il l'imagina marchant à côté de lui sur les grands boulevards, éclairés par les vitrines des magasins de luxe. Elle descendit à la gare, mais ne prit pas le train, restant à attendre on ne sait quoi dans la lumière crue des lampadaires. quelques bus tardifs rentraient au dépôt, balaient de gros animaux aux yeux jaunes retournant dans leur tanière. Sans comprendre, il laissa partir le train pour Paris et resta à observer la fille de loin. Il prendrait le train suivant dans 20 minutes. Elle fit quelques pas vers la zone industrielle, s'arrêta, tourna la tête et le regarda. Il en était certain. Il marcha à sa suite. Elle l'attendit. Ils étaient face à face. Elle le fixait avec une moue absente où il imagina une sorte de défi. Oui, elle le défiait de lui parler, de faire quelque chose, d'oser. Cela dura le temps infini de 3 battements de cœur. Le manteau cintré était entrouvert, mais Yves ne voyait pas la tache blanche du soutien-gorge. Il lui prit le poignet, elle résista un peu, puis se laissa faire. Dans la lutte, les pans du manteau s'écartèrent, tombant doucement dans l'air chaud. Le soupir d'Yves, quand il la vit telle qu'en rêve, fut presque douloureux. Il l'emmena à l'hôtel Campanis, qui dressait sa grande façade lumineuse au-dessus de la voie ferrée. La réceptionniste fut surprise par le tremblement de sa voix quand il demanda une chambre, mais ne lui donna qu'un seul formulaire à remplir. Elle se reflétait dans tous les miroirs de l'ascenseur. Il lui enleva son manteau avant le 3e étage, pour mieux la voir. Au téléphone, dans la chambre, il dit à Isabelle. Il m'a envoyé à Lyon, c'est urgent, tout est planté là-bas. Je te rappelle depuis l'hôtel, dès que j'arrive. Mentir était plus aisé qu'il ne pensait, mais il connaissait suffisamment bien Isabelle pour se douter qu'elle ne l'avait pas cru. Le peu de vêtements qu'elle portait encore tomba au sol. Elle avait la peau uniformément hâlée, légèrement tendue, vivante, à peine parfumée. Elle était docile et perdait toute réserve pendant l'amour, se tordant comme un serpent, gémissante, la peau perlée de sueur et le visage chaviré. Il ne s'endormit qu'à l'aube. À son réveil, elle était partie, ayant emmené toutes ses affaires. Il fut surpris de constater qu'il avait encore sa carte de crédit et tout son argent liquide. Il prenait maintenant le bus vers 21h, tous les soirs, plus impatient que jamais. Il la rencontra le mardi soir, le vendredi suivant, le mercredi suivant. À chaque fois, il l'emmena au Campanis, le corps en feu, comme un adolescent lors de son premier soir. Il quitta l'hôtel à 6h du matin. La nationale était quasiment déserte. Il se sentait les jambes flageolantes, inquiet de ce qu'il était en train de faire de sa vie. Cette nuit-là, avant de s'endormir, il avait pensé à Isabelle, seule dans la chambre de l'appartement. Le remords lui rendait nauséeux. C'est toi, connard! C'est toi, connard, qui la saute! Le coup le jeta à terre. Le chauffeur de bus le surplombait, le visage haineux. Il le roua de coups, l'insulta en arabe, frappa encore au ventre, à la tête. Yves sentit son sang couler. Il protesta, cria qu'il devait discuter, qu'il avait peut-être fait une erreur, mais en vain. Elle est à moi! À moi! À moi! L'averse de coups se calma. L'autre pleurait maintenant. À moi! À moi! À moi! Il s'assit dans les hautes herbes du talus bordant la voie ferrée, gros bonhomme malheureux et ridicule. Dégage, connard, elle est à moi. Yves se releva avec difficulté. Veste, chemise et pantalon étaient tachés de sang. Il tituba, vomit dans l'herbe et se sentit mieux. L'autre continuait à gémir dans son coin, insupportable. Un chauffeur de bus, bien sûr, voilà pourquoi elle traînait toujours autour de la gare routière. Mais lui, Yves, avait tellement mieux à lui proposer que le HLM miteux de cet imbécile. Il se rapprocha de l'autre, faussement rassurant. S'agenouilla derrière lui et lui passa sa maudite cravate autour du cou. Le chauffeur ne put pas crier. Il suffit alors à Yves de serrer assez fort et assez longtemps. Le grondement du train de banlieue juste au-dessus d'eux écrasa les derniers gémissements de ce pauvre type. Il jeta sa cravate dans la Seine et inventa pour la police et l'hôpital une histoire d'agression crédible. Le médecin le mit en arrêt pour 3 jours. Quand il rentra chez lui au milieu de journée pour raconter ses mensonges à Isabelle, il constata qu'elle était partie et ne reviendrait plus. L'amertume de son départ fut vite balayée par la joie impatiente de l'enfant, qui peut ouvrir son cadeau de Noël avant l'heure. Il l'attendit toute la soirée à la gare routière. Quand elle apparut, plus tôt qu'il ne pensait, il la jeta dans un train vers Paris. Elle portait un chemisier rouge d'un tissu transparent et froissé. Alors qu'ils étaient encore dans le train entre un groupe d'hommes d'affaires et une bande de vieilles dames en sortie, il détacha les 3 boutons du vêtement et posa une main sur elle. Personne ne réagit. Elle fut nue avant Saint-Lazare. Les hommes d'affaires continuaient à parler dans leur téléphone. Alors il éclata de rire, si fort qu'une des vieilles dames leva un sourcil indigné. Ce fut le début d'une époque intense et fiévreuse. Il l'installa chez lui, lui offrit des vêtements et un téléphone dans lequel elle ne parlait jamais, mais qui lui servait à lui fixer des rendez-vous. Il l'emmena sur les grands boulevards, la déshabilla sur la place Vendôme, sortit avec elle dans des boîtes de nuit où avant il ne mettait jamais les pieds. Maintenant, elle était à lui. Au bureau, la fatigue et l'assurance le rendaient sûr de lui et agressif. Il avait le bas-ventre chaud et agréablement épuisé par ses longues nuits avec elle. Il devenait dominateur et une collègue maladroite lui fit des avances qui l'étonnèrent agréablement. On finit par le nommer consultant. Il ne portait plus de cravate dans les locaux et il avait le droit de manger à la table des chefs avec Cédric Mathieu. Un jour, en fin de repas, ce dernier s'exclama. « J'ai pris le métro en revenant de chez MacGregor ce matin et j'ai vu un truc à vous faire aimer la RATP. » Assise en face de moi, il y avait une bonasse blonde, quasiment à poil. La nuit avait été longue pour Yves, et il s'endormait presque, mais le récit de Mathieu lui donna un violent coup d'adrénaline. L'autre continua. Elle portait un truc qui descendait jusque-là. Rire. Un chemisier fermé avec un seul bouton, là. Rire. Et les nibards, comme ça, à l'air, comme des petits oiseaux. Si ma fille s'habille un jour comme ça, je la lapide, pas besoin d'être taliban pour ça. Et c'est pas tout. Je reprends le bus à la gare. Et qui je revois? Elle. T'es sûr que c'est pas toi qui l'aurais suivi plutôt? Rire. Justement, tu racontais pas que ta femme était en vacances? Encore des rires des autres qui commentèrent l'histoire. On demanda à Yves d'aller chercher un autre café pour tout le monde. Yves acquiesça d'une voix blanche, se leva et quitta les locaux de premier sans savoir où il allait, se retrouvant dehors, assommé par le soleil. Au bout d'une demi-heure d'attente, un bus blanc éblouissant de la ligne R7 arriva à l'arrêt. Il était totalement vide. Yves s'assit tout à l'arrière, sortit son téléphone, l'appelant elle, pour lui demander de le retrouver chez lui, à Paris, dans une heure, pas plus. Elle ne décrocha pas. Quelque chose sonnait sous le siège d'Yves. Il se baissa, ramassa le téléphone qu'il lui avait offert et se mit à pleurer.